Voilà pourquoi je crois que dans la vie, il faut savoir regarder les fantômes. Que pour vivre les yeux bien ouverts, pour comprendre les choses bien clairement, il faut ne pas oublier la part obscure des choses. Que pour vivre au sens le plus plein, il faut savoir écouter ce que vous chuchotent les morts.
Émission spectrale ce soir dans le rendez-vous sur France Culture. Il sera question du Japon, de Colcos, de non-représentation, d'apocalypse et même de diphonie. Avec Claude Régis qui remet en scène Intérieur de Maeterlinck, en japonais cette fois dans le cadre du Festival d'automne à Paris, ou Comment travailler le silence comme une durée théâtrale, Lucille Comeau.
Portrait d'un metteur en scène qui épure depuis des années un théâtre dans lequel un seul geste, une seule syllabe font événement.
Avec Antoine Volodine qui signe Terminus Radieux, une épopée du désastre après l'irradiation complète de la Sibérie, Manu Farine.
Entre magie et apocalypse, une épopée à l'horizon fataliste duquel pourrait bien pointer l'idée très post-exotique d'une extinction de l'espèce humaine.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le nouveau journal de la culture de Zoé Sfez. Et l'on ouvre avec le son du jour, Zoé.
Oui, c'est l'une des voix de la mode les mieux connues et les plus aimées des Français, celle de Jean-Paul Gaultier.
Alors là, j'ai pensé aucun plan de carrière, rien du tout. C'était vraiment faire ça, je voulais faire ça. Rien, vraiment. Je ne savais même pas si ça serait sous mon nom ou quoi. Aucune chose. C'était simplement faire Falbala, le film que j'avais vu avec Michine Prel. C'était ça que je voulais faire, ce métier-là, du monsieur-là, le blond qui était là. J'ai cherché après des nouvelles aventures, genre faire de la couture, faire des films, Madonna évidemment, et puis faire du cinéma, donc travailler avec des metteurs en scène, et après Hermès, en fait tout ça c'était à chaque fois des aventures différentes.
Enfin le vrai son du jour, c'était hier, Jean-Paul Gaultier a provoqué le choc dans le monde de la mode, puisque hier il annonçait qu'il arrêtait le prêt-à-porter.
Et oui, après 38 années de création, Jean-Paul Gaultier arrête le prêt-à-porter et les accessoires aussi, Laurent. C'est le Women's Wear Daily qui a annoncé la triste nouvelle. À 62 ans, le créateur dit vouloir se consacrer à la couture, au parfum et à d'autres projets, selon son communiqué. La décision sème évidemment une certaine tristesse dans le monde de la mode, mais finalement n'étonne pas les connaisseurs comme Olivier Niclos. Il a rencontré Jean-Paul Gaultier en 2012 dans le cadre de son documentaire sur l'évolution de la mode, Fashion, et il lui avait demandé à ce moment-là s'il se sentait toujours en phase avec son époque.
Il m'a fait une réponse que j'ai trouvée au lieu d'être dans le déni et de dire « non mais écoutez, j'assure, je suis toujours en phase avec l'époque et tout ça », il a quand même laissé entendre que la question se posait de savoir si, à son âge aujourd'hui, il était encore en phase avec la mode telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire quand même toujours à la pointe de la nouveauté ou en tout cas d'un désir qui colle avec l'époque, quoi. Ce qu'il a très bien réussi au début de sa carrière, c'est-à-dire que si ça a tellement marché, c'était pour sa fraîcheur, pour la façon dont il décomplexait les choses, dont il désacralisait le vêtement. Et peut-être qu'aujourd'hui, en effet, il y avait un petit peu moins de justesse, en tout cas dans son prêt-à-porter.
Alors bien sûr, dans les rédactions de mode, on ne manque pas de porter le couturier au nu, mais pour autant, son prêt-à-porter ne fonctionnait plus.
Oui, c'est un peu en fait la même histoire que celle d'autres couturiers de la génération de Jean-Paul Gaultier, comme Christian Lacroix ou Thierry Mugler. Il y avait près de 10 boutiques de prêt-à-porter Jean-Paul Gaultier il y a 10 ans à Paris. Il n'y en a plus que 2 aujourd'hui. Et de ce point de vue, pour Guillaume Erner, sociologue de la mode et des tendances, Jean-Paul Gaultier est finalement l'un des meilleurs exemples de la manière dont le monde de la mode s'est transformé.
Bon, évidemment, l'arrêt du prêt-à-porter par Jean-Paul Gaultier est quelque chose qui, à titre personnel, peut nous faire de la peine. Mais c'est aussi, sur le plan de l'histoire de la mode, un non-événement dans la mesure où, en réalité, cela fait quelques années que Jean-Paul Gaultier, en tant que marque, ne pèse plus dans le prêt-à-porter. Il y a eu des mutations extrêmement importantes depuis un quart de siècle dans la mode. Et l'une de ces mutations, c'est qu'en fait, les marques ont dévoré les créateurs. Et qu'est-ce qui demeure du coup dans cet univers de la mode? Eh bien, ce qui demeure, ce sont tout simplement des licences, par exemple les parfums. Et ce sont ces licences qui ont fait vivre bon nombre de marques de mode, telles que Jean-Paul Gaultier, alors que leur créativité en chiffon, elle est en grande partie émoussée depuis de nombreuses années.
La question se pose maintenant de savoir si à plus de 60 ans, le moment n'est pas venu pour Jean-Paul Gaultier de passer la main.
Oui, c'est ce qu'ont fait Thierry Mugler ou de grandes maisons comme Dior ou Yves Saint Laurent qui, du vivant de leurs créateurs, ont organisé leur succession. Ce serait peut-être la clé qui permettrait à cette maison de survivre, de lui survivre à Jean-Paul Gaultier. Mais pour Olivier Niclos, eh bien, ce n'est pas prêt du tout d'arriver.
En ce qui concerne Jean-Paul Gaultier, il y a un truc psychologique qui est qu'il ne veut pas lâcher. Moi, je connais des gens qui ont travaillé dans sa maison. Il a eu l'occasion, si vous voulez, de déléguer sa création à des tas de gens avec beaucoup de talent. Mais au fond, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas vraiment déléguer, ce qui se conçoit très bien par ailleurs. Hein. Si on considère qu'un créateur peut être un artiste, c'est très curieux, si vous voulez, l'idée que quelqu'un crée les choses à votre place sous votre nom. Donc, mais le jour où effectivement il sera minoritaire autour de la table, ça pourrait arriver en effet. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que le nom Jean-Paul Gaultier, il pèse quand même. Il a réussi cette chose d'avoir imposé son nom, et lui-même d'ailleurs comme icône médiatique. C'est-à-dire que c'est, tant qu'il est banquier bon oeil, c'est un peu compliqué, je pense, de mettre quelqu'un d'autre.
Voilà, le dernier défilé prêt-à-porter de Jean-Paul Gaultier, ce sera donc le 27 septembre prochain au Grand Rex de Paris pour la Fashion Week collection printemps-été à vos mouchoirs.
Et on poursuit tout de suite avec les brèves.
Et l'on ouvre avec l'affaire Julie Broschen, dont on vous avait parlé au début de cette année. La directrice du TNS qui refusait de quitter son poste après 6 ans à la tête du Théâtre National de Strasbourg, car son contrat avait été écourté. Eh bien, Julie Broschen a finalement obtenu les subventions qu'elle voulait pour sa troupe et l'indemnité qu'elle réclamait pour elle-même. Elle a officiellement démissionné hier et son successeur, Stanislas Nordet, doit être nommé dans les prochains jours.
À ce sujet, Claude Régis, on ne vous a jamais proposé la direction d'un théâtre, d'une institution ?
Une fois dans ma longue vie, mais j'ai refusé et je suis très heureux de n'avoir jamais voulu prendre de maison parce que je pense que ma liberté est restée totale et que quand on a une maison, elle vous contraint elle-même à une certaine surveillance des recettes, des programmations et tout un travail aussi de programmation qui n'est pas mon fait, je n'ai pas envie de faire.
Quelle est cette maison que l'on vous avait proposée ?
Alors, je crois que c'est le théâtre du 8e à Lyon, ça s'appelait comme ça.
Grande figure de l'édition, le philosophe François Vol est mort.
Oui, c'est un homme de sciences sociales, grand défenseur de la pensée structuraliste. Il a notamment publié aux éditions du Seuil des auteurs comme Roland Barthes, Paul Ricoeur ou Alain Badiou. Il a aussi été dans sa jeunesse résistant dans le maquis, où il fut notamment le professeur d'Elie Wiesel.
Une ancienne championne olympique russe prend la tête d'un groupe médiatique.
Oui, il y a 30 ans à peine, Aliena Kabaeva, ancienne gymnaste et aujourd'hui députée à la Douma, à qui on a prêté une relation intime avec Vladimir Poutine, va diriger le groupe médiatique national, l'un des plus grands groupes de Russie, fondée justement par un proche de Poutine et qui, on s'en doute, est pro-pouvoir.
Alors la dernière.
La dernière, c'est une histoire de lecture, de prison et d'humour à l'anglaise. Finalement, figurez-vous qu'en Grande-Bretagne, le secrétaire d'État à la justice s'est attiré les foudres de l'opinion en faisant passer, il y a peu, une loi qui durcit les règles en matière d'envoi de colis aux détenus dans les prisons. Une des nouvelles interdictions qui a attendri largement le grand public, c'est l'interdiction d'envoyer des livres aux détenus. Après une campagne médiatique qui s'offusquait que dans leur malheur, les détenus n'aient même pas accès à un peu de lecture, un membre de la Chambre des communes s'est amusé à faire une petite enquête pour comprendre ce qu'il en était vraiment des livres en prison. Et son enquête a montré des résultats assez surprenants. Il a en effet découvert que les détenus sont les citoyens britanniques qui ont le plus grand accès à la lecture. Dans son compte-rendu présenté à la Chambre des communes, il indique que 106 pounds sont dépensés par prisonniers par an pour financer les services de prêt, alors que c'est beaucoup plus que la moitié des sommes allouées aux bibliothèques publiques en Angleterre. Il a aussi découvert que dans la prison de Leeds, il y a 10 livres et demi par prisonnier, 17 dans la prison de Wakefield, alors que dans les bibliothèques de sa circonscription, il y a à peine un livre par personne.
Merci Zoé Sfez, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. À demain.
19h20, le rendez-vous.
Le plateau sera japonais avec vous, Claude Régis. Vous mettez actuellement en scène intérieure à la Maison de la Culture du Japon à Paris, dans le cadre du Festival d'automne. C'est une courte pièce de Maurice Maeterlinck, écrite en 1894, que vous avez créée au Japon, d'abord, avec des acteurs japonais. Sur le plateau recouvert de sable, petite description, deux espaces délimités par des vibrations de couleurs qui supposent un extérieur et un intérieur. Lucille.
À l'avant-scène, il y a des personnages qui observent une famille, le père, la mère, deux sœurs et un enfant qui est endormi au milieu. Une famille qui ne sait pas encore qu'un des leurs est mort, noyé dans un lac voisin. Et tout l'argument de la pièce, en fait, tient dans cette tension entre ceux qui savent et qui parlent et ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas la parole.
C'est la deuxième fois que vous montez cette pièce de Maeterlinck. La première fois, c'était en 1985. Qu'est-ce qui vous intéressait à l'époque dans cette pièce écrite pour des marionnettes ? Claude Régis.
Ce n'était pas le fait qu'elle était écrite pour des marionnettes. D'ailleurs, je ne pense pas que Maeterlinck ait jamais pensé que ce serait joué par des marionnettes. Ce qui m'a poussé, c'est l'appellation que Handke avait donnée à sa pièce que je venais de monter, qui s'appelait « Par les villages ». Il avait appelé ça « poème dramatique ». Et ça me paraissait très beau. Je me suis dit, j'aimerais trouver d'autres poèmes dramatiques. Et j'ai lu Intérieur et j'ai dit, voilà un poème dramatique. Et je l'ai monté pour ça et parce que Maeterlinck a pris très fortement position contre la manière de faire du théâtre à son époque. Et pourquoi il a parlé de marionnettes, en fait, c'était
voilà,
pour flinguer les acteurs. Et il a dit que quand le rideau s'ouvre et qu'on voit rentrer l'acteur qui joue Hamlet, l'œuvre de Shakespeare est déjà éteinte.
Qu'est-ce qu'il reprochait véritablement aux acteurs à cette époque-là? Donc,
je crois que c'est simplement l'excès de jeu, c'est-à-dire le cabotinage, c'est-à-dire le fait que l'acteur prend la place de l'auteur, en fait, et veut se faire passer pour le créateur. Alors que depuis Duras, je me suis toujours battu pour que l'écriture soit l'élément essentiel de la représentation, en fait.
Lucille Comeau.
Alors, il y a quand même une tradition de marionnettes au Japon. On ne peut pas ne pas y penser. Cette tradition, c'est le bunraku.
J'avais
pensé.
Divise,
voilà, j'imagine. Et qui divise en fait l'action et le texte. Il y a ceux qui manipulent à vue des grandes marionnettes et il y a ceux qui ont la parole.
Elles ne sont pas grandes, les marionnettes.
Elles ne sont,
sont pas si grandes. Non, on a vu en France des travaux avec des grandes marionnettes. Mais les marionnettes du bunraku sont de petite taille, en fait.
Et par exemple, cette division entre ceux qui parlent et ceux qui manipulent les marionnettes, est-ce que ça a pu vous inspirer pour votre dispositif de mise en scène pour Intérieur ?
Bien entendu, puisque justement, une des raisons pour lesquelles j'ai proposé Intérieur au Japon, c'est parce qu'il y a cette division entre une partie de la troupe qui ne parle pas, qui est entièrement muet, et qui donc peut être supposé être manipulé par quelqu'un qui agit sur leur membre. À ce moment, il y a un texte de Kleist magnifique sur la marionnette, justement, qui est passive, dont les membres sont morts, sont disponibles et à qui la vie est donnée par l'influx d'une autre vie, en fait. Et donc cette division entre une partie de la troupe qui parle et une partie de la troupe qui fait des images muettes, ça on le retrouve dans Intérieur et c'est un fondement du bunraku. Et il y a aussi, bien sûr, que Maeterlinck, à travers Intérieur, parle de la mort et que tous les nos parlent de la mort. On dit même que les acteurs qui rentrent en scène traversent un pont qui vient du monde des morts. Et dans tous les nos, le monde des vivants et le monde des morts est extrêmement friable. Il n'y a pas de coupure nette, il n'y a pas de rideau de fer qui descend entre les deux façons de se comporter. Donc ça m'a paru que Maeterlinck est, sans le vouloir, parce que je ne crois pas qu'il a été très japonisé. Et au Japon, très étrangement, la seule œuvre qui est très connue, c'est L'Oiseau bleu, qui est pourtant une œuvre très difficile, mais il y a quelques metteurs en scène qui sont heureux de se faire cet exercice très, très compliqué. Mais en général, la philosophie est tuée par justement la démonstration du talent du metteur en scène.
Quelles sont les indications, Claude Régis, que vous avez données à vos acteurs qui ne parlaient pas japonais ? Vous qui ne parlez pas japonais.
Moi qui ne parle pas japonais, mes acteurs parlent japonais parce qu'ils sont japonais.
Mais... Oui, tout à fait.
J'ai essayé de leur ôter l'idée d'une espèce de perfection d'exécution. J'ai essayé d'introduire l'idée que l'essentiel n'est pas d'exécuter et surtout pas de répéter jour après jour cette exécution, que l'essentiel est de garder la fragilité de l'invention de chaque moment et de laisser ouvert sur toute possibilité d'imagination qui peuvent nous emmener extrêmement loin. Parce que le sujet de Maeterlinck étant la mort, il est certain que c'est l'exemple le plus absolu de l'inconnu le plus absolu. Donc on se heurte là au plaisir de frôler l'inconnu et de voir dans quelle mesure d'ailleurs l'être humain peut être équipé pour percevoir par des moyens obscurs, par l'intuition essentiellement, percevoir ce qui paraît hors de la portée humaine.
Antoine Volodine, j'ai vu que vous preniez des notes, enfin, que vous aviez écrit quelque chose, peut-être un commentaire.
Non, ce qui me passionne dans le Bunraku, c'est que les parties donc, séparées de l'action, qui disent l'action, sont des parties qui sont chantées et récitées en même temps. Et c'est une richesse de voix qui ajoute quelque chose de sublime au récit, à ce qui se passe. On n'est pas seulement dans la description de l'action, on a un poème chanté, épique, de type opéra, qui se déroule à côté de la scène.
Claude Régis.
Je suis très heureux de ce que vous dites, parce que justement, cette référence à quelque chose de musical nous entraîne aussi à un autre ordre de compréhension que la perception de la seule intelligence au travail, et qu'il y a des choses secrètes qui sont révélées là. Et je crois, j'ai demandé aussi à ces acteurs de beaucoup travailler sur ces choses obscures qui font l'essentiel de l'être humain. Maeterlinck s'est mis à parler latin et il parlait d'une mare tenebrarum, ce qui se traduit très facilement « mer de ténèbres ». Et que c'est dans cet univers obscur, et c'est dans le non clair où je m'oriente de plus en plus à travers les auteurs que j'essaye de travailler. Maeterlinck est un immense précurseur. Il a précédé Gordon Craig, il a précédé Artaud, qui est venu après, qui a dit beaucoup de bien de l'écriture de Maeterlinck, mais qui a fait des déclarations très proches de ce que Maeterlinck expliquait à propos de cette mer de ténèbres. Et donc, il est très important dans l'histoire du théâtre. En fait, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le trésor des humbles », à travers lequel il explique que le théâtre n'est pas forcément une action violente, ça ne se fait pas avec des épées, ça ne se fait pas avec du poison, ça se fait souvent par des choses impondérables, par des choses semi-invisibles. Et donc il s'agit d'un théâtre d'un autre ordre qui exige, comme on l'a dit en commençant, des acteurs, une façon de travailler tout à fait particulière qui n'est pas ce qu'on apprend dans les écoles de théâtre, ni ce qu'on pratique sur les scènes.
Antoine Volodine ?
Oui, est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter que je reviens au Bunraku et pas, je quitte Maeterlinck, hein, que la langue de ceux qui chantent et disent le texte du Bunraku est déjà une langue obscure pour les Japonais. C'est une langue extrêmement travaillée, extrêmement déformée, qui n'est pas la langue du quotidien japonais. Mmh. Avec donc une part de poésie et de mystère qui se rajoute et qui est cristallisée dans la langue même. Mmh.
Lucille Comeau ?
Claude, c'est intéressant, Claude Régis, cette question du rythme, parce que vous ralentissez aussi énormément, j'ai l'impression, je ne parle pas japonais, mais la diction de la langue japonaise, et vous avez choisi par ailleurs de ne pas traduire tout le texte. Il y a quelques sous-titres, quelques surtitres, mais pas tout. Pourquoi ne pas avoir traduit du tout ?
Il y a deux chapitres dans votre intervention. La première, c'est... Non, la seconde, c'est sur le surtitrage.
Et la première, c'est sur le ralentissement pour la diction.
Je ne sais pas si vous voulez commencer par la seconde ou par la
première. Celle que vous voulez.
Le ralentissement, je le pratique depuis plusieurs années. Et simplement, il est très facile d'analyser que le ralenti change complètement la nature du temps et change en même temps complètement la nature de l'espace. On a donc la création d'un espace-temps qui n'est pas du tout celui dans lequel nous vivons quotidiennement. Donc il y a par là une transposition naturelle. Et en même temps, chaque geste ralentit, une main qui s'approche d'une joue, une main, des doigts qui vont toucher d'autres doigts. Si c'est au ralenti, si on mesure les millimètres qui sépare ce rapprochement extrêmement lent, on a tout d'un coup un monde, un univers tout à fait surprenant, qui, je crois d'ailleurs, nous aide à aller vers le silence. Et c'est pourquoi le silence est une notion essentielle dans ce spectacle. Alors, justement, à propos de silence, vous posez l'excellente question du surtitrage. J'ai pris la liberté, et il y a quelques personnes qui m'en ont été reconnaissants. J'ai pris la liberté de ne pas tout traduire, parce que à ce moment-là, le spectacle devient un exercice de lecture. Et en même temps, le spectateur est occupé à lever les yeux vers le surtitrage, donc il quitte des yeux le spectacle lui-même. Et pour remédier à ça, il m'a semblé important, je l'avais déjà fait avec Sarah Kane quand je me suis occupé de 448 psychoses, ça m'a d'ailleurs été reproché par les Américains, mais...
Mais... Qui avait l'impression que la machine était en panne.
Oui, quelquefois, il pensait que la machine était en panne. Mais au contraire, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il faut éduquer les gens à s'apercevoir qu'on peut comprendre alors qu'on croit ne pas comprendre. Et que le surtitrage est relativement récent, je suis très âgé, mais j'ai connu au moment du premier Théâtre des Nations, on voyait des spectacles de tous les pays du monde dans leur langue d'origine, sans aucune traduction et sans aucun surtitrage. Et on percevait très bien, peut-être qu'on s'égarait dans l'interprétation de l'œuvre, mais en tout cas, on recevait des sensations très fortes et on assistait à un spectacle auquel on adhérait très profondément. Et on distinguait très bien les acteurs qui étaient excellents et ceux qui étaient moins bons. Donc, c'est pour entraîner les gens à percevoir au-delà de ce qu'ils croient et pour élargir le plan de la compréhension à tous, justement, à ce à quoi on peut accéder par des voies obscures et qui n'est pas uniquement le chemin de la clarté intelligible.
Puisqu'on parlait de langue et de musicalité, Claude Régis, je me demandais pourquoi on ne vous a pas proposé plus souvent la mise en scène d'opéra. J'imagine que vous avez aussi refusé.
J'ai eu une époque où on m'a proposé...
Vous avez fait Carnet d'un disparu de Janáček, mais c'est un poème musical.
J'ai fait même Les maîtres chanteurs.
Ah.
J'ai fait Passaggio de
Berio,
mais je ne suis pas très désireux de poursuivre ma carrière de metteur en scène d'opéra.
Pour quelle raison ?
Parce que les conditions de travail ne sont pas les miennes. C'est-à-dire, je répète 2 mois, quelquefois 3 mois. Je dois travailler très lentement. Les chanteurs sont de très grandes voix, qui sont d'ailleurs payés très cher. Mais ils ne sont pas tellement disponibles à faire un travail, ni à faire ce que je dis que Metternich avait demandé aux acteurs, c'est-à-dire de réviser leur façon de se comporter en scène, leur façon de bouger, leur façon de chanter d'ailleurs, et d'habiter leur voix. Donc en même temps, il y a des problèmes techniques très compliqués parce qu'il y a des pauses tout le temps. La pause des choristes n'est pas à la même heure que la pause de l'orchestre.
Et pour vous, c'est un enfer.
La pause des chanteurs qui n'est pas à la même heure que la pause des danseurs, etc. Donc on est tout le temps en pause. On ne peut jamais prévoir organiser le travail. Et donc ce n'est pas du tout conforme à ma manière d'envisager cette aventure qui est de créer... Finalement, il faut créer quelque chose. C'est pas monter quelque chose que tout le monde a déjà vu. C'est inventer et créer quelque chose.
Vous, quand vous avez commencé, vous avez été un temps acteur, notamment sous la direction de Michel...
Pas longtemps.
Non, sous la direction de Michel Vitold, dont vous étiez l'assistant à l'époque. Donc c'était fin des années 40, début des années 50. Quel acteur étiez-vous ?
Claude Régis. I don't know. Je pense que si j'avais été vraiment happé par le métier d'acteur, j'aurais continué à faire des expériences sur ce terrain-là. Mais dès que j'ai commencé à toucher à la mise en scène, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus intéressant de se corps à corps avec une écriture et après de insuffler sans autoritarisme excessif, mais de trouver comment insuffler ce qu'on pressent être l'essentiel de l'écriture à travers les acteurs et comment les empêcher de jouer d'une manière qui, comme le disait Duras, elle disait très violemment, les acteurs n'aident pas l'écriture, ils tuent l'écriture, disait-elle. C'est un peu violent. Mais il y a quelque chose qui n'est pas faux, et surtout, ce qui est troublant, c'est que c'est très proche de ce que pensait Maeterlinck, je crois.
Lucille.
Alors, comme tous les jours, depuis la rentrée, on demande à nos invités quels sons ou quelles voix ils voudraient entendre. Et vous, vous avez choisi ça.
Nathalie Sarraute, ce n'est pas dans cette pièce, je crois, que vous travaillez.
Non, d'habitude, je travaille toujours dans un café.
Et dans ce café, pourquoi?
Je me sens mieux toujours dans un café. Parce que je suis complètement isolée, et puis je suis hors de mon cadre habituel, et puis je n'ai rien pour me distraire. Dans un coin comme ça du café, je me sens complètement seule, et puis rien qui me sollicite, et je suis bien obligée de me mettre à travailler. C'est drôle, justement, ce bruit du café, oui. Cette présence d'autres gens, mais qui me sont totalement étrangers, crée une possibilité de me concentrer beaucoup plus grande que seule chez moi dans une chambre. Je crois que c'est très important de sortir de chez soi. Et puis il y a une sorte de sentiment de culpabilité. Un peu. Dans le monde entier, tout le monde sort, s'habille, sort de chez soi par tous les temps et va travailler.
Claude Régis, la voix de Nathalie Sarraute.
Oui, je l'aime infiniment et elle m'émeut beaucoup. C'est une amitié perdue. C'est ce genre de relation qu'on ne remplace pas parce qu'il y a à la fois une intelligence très vive et à la fois une profondeur, j'oserais dire. Et une relation au monde qui semble essentielle, sans qu'on puisse définir vraiment pourquoi.
Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Je sais que Marguerite Duras, par exemple, son travail a apporté ce qu'on appelle chez vous la non-représentation. Et avec Nathalie Sarraute.
Pour ne pas être trop loin, je voudrais juste citer une phrase d'elle qui dit « Les mots servent à libérer une matière silencieuse » qui est bien plus vaste que les mots. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit que ça commence par par servir, mais cette servitude amène la libération. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que ça crée ces zones de silence qui prolongent les textes. C'est-à-dire que l'essentiel de l'écriture, je ne sais pas si vous... Vous suivrez, l'essentiel de l'écriture n'est pas dans les mots elles-mêmes, n'est pas dans l'écriture elle-même. L'écriture est impuissante à elle-même. Et elle n'est valable que dans la mesure où elle nous branche sur un au-delà des mots, sur un au-delà de l'écriture, où se situe le vrai discours que l'auteur essaye de transmettre au lecteur. Alors, le silence s'entend aussi quand on lit, je pense.
Antoine Volodine.
Oui, nous sommes entrés dans la question du silence. Et je pense qu'un des livres de Lutz Bassmann, un de mes camarades du post-exotisme, avant le texte, commence de cette manière. Tambours incessants, silence pendant le texte. Et à la fin du livre, on a silence après le texte. Et je pense que cette notion de silence... Qui est totalement paradoxal, puisque vont venir des mots après ces avertissements. C'est une manière de dire que les mots sont également du silence.
C'est pour cette raison, par exemple, Claude Régis, que vous exigez de la part de vos spectateurs qu'ils se taisent quand ils entrent dans la salle de théâtre?
Je ne l'exige pas.
C'est marqué partout dans la maison de la culture du Japon.
C'est en effet une initiative que certains jugent mal, comme un excès d'autorité. Ce n'est pas du tout le cas. Simplement, je suis présent à toutes les représentations de tous les spectacles que j'ai faits. Ça fait 60 ans que j'assiste à des représentations. Et je vois bien que les gens rentrent en parlant, en riant, et que j'écoute ce qu'ils disent. Mes voisins parlent de ce qu'ils ont vécu dans leur quotidien, dans la journée, des problèmes de famille, des problèmes de santé, etc. Donc après, quand on attaque un univers qui est très loin du réel, qui doit les sortir de cet ensevelissement dans le réel, une zone de silence, un sas de silence qui précède la représentation est absolument bénéfique, non seulement pour la représentation, mais j'observe qu'il est extraordinairement bénéfique pour les spectateurs eux-mêmes. Et s'ils ont la force de se taire, de garder le silence, ils reçoivent beaucoup mieux l'attaque du spectacle et ils peuvent après continuer à entendre le silence qui, justement, est mêlé aux mots. C'est ce qui fait travailler les acteurs aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le silence qui précède la prise de parole est très important. Ça change la nature de la prise de parole. Le silence qui suit la parole ou l'écriture est évidemment une caisse de résonance très, très importante. Mais ce que je fais travailler aux acteurs, c'est aussi comment délivrer le bruit des mots sans oblitérer le silence. C'est-à-dire comment mêler le silence à un certain bruit, finalement, mais de conserver le silence pendant l'émission du texte, ce qui aboutit évidemment à un rythme ralenti. On peut pas tout faire.
Plateau désastre avec vous, Antoine Volodine. Vous signez en cette rentrée littéraire Terminus Radieux au Seuil, une épopée du désastre, une odyssée de l'errance qui se déroule dans un temps fictif après la chute d'une seconde Union soviétique et après irradiation complète de la Sibérie, Manu Farine.
C'est là qu'on va donc rencontrer trois ex-révolutionnaires en fuite, des soldats fantômes, des immortels, des déjà morts, des bientôt morts, trois sœurs, un kolkhoz irradié tenu par Soloviev, une sorte de président de ce kolkhoz, chaman, tyran, poète, on y reviendra bien sûr. Et puis Mémé Oudgoul, qui est la gardienne immortelle d'une pile atomique déglinguée qui, elle, est plantée dans le sol du kolkhoz. Le kolkhoz étant bien nommé Terminus Radieux.
Eh bien, on va ouvrir sur un chant diphonique de chaman sibérien qui pourrait faire partie de la bande-son de ce roman. On écoute. Qu'est-ce que ce chant diphonique pourrait dire de votre littérature et de votre écriture, Antoine Volodine ?
Eh bien d'abord, c'est parfaitement bien choisi parce que dans le livre, les soldats et les prisonniers qui se trouvent à l'intérieur d'un convoi sur une voie unique, une sorte de train fantôme qui erre, qui roule infiniment sans jamais trouver de lieu de station terminale, justement, qui roule à la recherche d'un camp providentiel qui devient dans l'imaginaire de ces personnages une sorte de paradis. Eh bien, de temps en temps, ils s'arrêtent au bord de la voie, autour des feux de camp, eux qui sont ni prisonniers, ni soldats, ni morts, ni vivants, racontent des histoires, chantent des histoires et utilisent le chant diphonique la plupart du temps pour raconter ces extraits épiques de fausses petites biographies ou des poèmes.
Manu.
Antoine Volodine, ce roman se réfère beaucoup, enfin, il est truffé de micro-récits, donc il y a le grand récit, le micro-récit, plusieurs voix, on ne sait pas forcément qui parle à quel moment, on change de voix. Vous-même, vous citez comme référence, vous référez à la biline, qui sont ces épopées chorales russes chantées, qui étaient chantées par les bardes. Qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous et qu'est-ce qu'elles vous ont permis, justement, dans l'élaboration de ce roman ?
Alors, vous avez parlé de Soloviev, qui est le président du kolkhoz. Soloviev, c'est Rossignol en russe. Et un des personnages qui apparaissent dans les bilines russes, dans les légendes russes épiques, c'est le personnage du Rossignol brigand. C'est un personnage qui habite la forêt, qui est très peu décrit dans les chants, mais qui réussit à terrasser tous les voyageurs qui traversent la forêt en sifflant d'une manière terrible. Et on retrouve dans ce roman, dans Terminus Radieux, ce personnage, on retrouve son nom, Solavier, et on retrouve sa faculté de dire des poèmes, d'inventer des sortes de chants cryptés, très bizarres, qui s'adressent beaucoup plus à l'inconscient de ceux qui les entendent, ou du lecteur, ou de la lectrice, que de... il ne s'agit pas de poèmes véritablement décryptables.
On parle à l'instant de Solveig, donc le sorcier chaman tyran qui finit par se dissoudre lentement dans le roman. Et de dissolution, il en est aussi question dans le son que vous nous avez apporté, Anton Volodine.
Kiss was a kiss mindennek vége. Vége már, s nem lesz másik, nem lesz jó, soha már, soha talán.
Identification du son, Anton Volodine.
Alors d'abord on entend ici un chant en hongrois, langue que personne ne connaît autour de cette table et qui est merveilleux du point de vue phonétique, en plus de la merveille de la tonalité de cette voix. Et si j'ai choisi cela, c'est parce que on est dans une situation de film. C'est un extrait d'un film de Bellatar, Damnation, que certainement... Claude Régis connaît parce que c'est également quelqu'un qui travaille sur le ralentissement, le ralenti, le silence, l'absence de mots. Et là, on est dans une longue séquence où la caméra, très lentement, montre la chanteuse qui chante complètement avachie, les yeux fermés, et son amant qui est dans la salle, qui... ne dit rien, qui l'écoute et qui a les yeux baissés. Et pendant 5, 6, 7 minutes, on assiste à cette confrontation silencieuse avec cette musique sublime. Et pour moi, c'est une matière à récit que j'aimerais pouvoir toujours transmettre aussi par l'écriture.
Ez van, ezt kell szeretni. Mondd miért, kicsi.
Claude Régis va crier au sacrilège. Mais pourriez-vous traduire ce dont il est question dans cette chanson, Anton Volodine?
Je crois qu'il s'agit de pourquoi, pourquoi pas, jamais, etc. C'est un chant désespéré.
Bellatar, c'est un cinéaste que vous regardez. Claude Régis.
C'est une admiration sans borne.
Je peux imaginer.
Oui, c'est tout à fait un univers tout à fait personnel, qui lui est personnel, et qui est pour moi extrêmement troublant, parce qu'effectivement, ça montre une humanité qui peut poser des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Et surtout, il utilise la présence muette et la lenteur d'une manière sublime qui ne peut que me donner des complexes.
Manu Farine.
À propos de lenteur, Antoine Volodine, vous dites que pour Terminus Radieux, donc ce roman-là, il y a eu 17 versions avant celle qui est publiée. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous cherchiez pour avoir besoin de 17 versions?
17 versions, c'est parce que le fichier que j'ai envoyé à l'éditeur porte le numéro version 17. Et effectivement, pendant très longtemps, pendant des années, puisqu'il y a des fragments qui ont été réutilisés dans la dernière version et qui dataient de 6 ans, 7 ans, 10 ans, ce que je cherchais, c'était c'était de donner autre chose que simplement un roman. Et ça, c'est une de nos préoccupations dans le post-exotisme en général, de donner un objet littéraire, un objet artistique qui soit le plus parfait possible. Et par conséquent, il fallait travailler cette matière, faire en sorte que ça devienne un roman beau et lisible et accessible. Mais en plus, il y avait des structures musicales et des contraintes musicales à l'intérieur. Par exemple, il y a 49 chapitres, 343 sous-chapitres, c'est-à-dire 7 fois 7. Et puis, maintenant je peux le dire, puisque ça fait un moment que le livre est sorti, au moins 15 jours, c'est déjà presque la fin
c'est
de
énorme.
Son existence. il y a 777 777 caractères. Donc pour arriver à ce chiffre, il faut faire un travail d'orfèvre après avoir fait un travail de sculpteur. Voilà.
Claude Régis, un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit sur cette dimension, à dire, numérique,
mais
cette contrainte.
Ça ne peut que me toucher, et cette émission m'aura vraiment donné très envie de lire vos ouvrages que je n'ai pas lus. Ce sera en même temps une découverte, mais tout ce que vous dites rejoint des choses qui me sont essentielles. Donc je pense que je vais avoir un très grand plaisir à lire ce livre-là. Et à partir de là, je continuerai à essayer de lire les autres.
Alors justement, on va revenir sur les autres, parce qu'il y a ce terme de post-exotisme que vous avez lâché, Antoine Volodine, il y a un instant. C'est un concept qu'on va dire que vous avez mis en place dans les années 90. Le post-exotisme, vous me direz si je me trompe, c'est une enveloppe, une sorte de projet littéraire qui s'exprime par plusieurs voix qui sont vos avatars littéraires, mais des avatars auteurs qui ont tous leur autonomie, leur langue, leur éditeur et leur discours. Alors je me demandais en quoi la Sibérie serait-elle, comme vous avez pu le dire, en harmonie avec cette poésie post-exotique. Antoine Volodine.
Alors si on parle de la construction du post-exotisme à plusieurs voix, c'est vrai, il y a plusieurs auteurs post-exotiques, Lutz Bassmann, Manuela Dreger, Eli Kronauer et Antoine Volodine, qui existent de façon indépendante dans le monde éditorial et qui ont chacun leur voix, leur particularité de thématique et stylistique. Et je dois dire que l'un de ces poètes, écrivains post-exotiques publiés, qui s'appelle Eli Kronauer, a traduit des bilines russes, donc des légendes épiques chantées telles qu'elles ont été enregistrées par des ethnologues au 19e et au tout début du 20e siècle.
Alors les bases, Antoine Volodine, on ne va peut-être pas non plus refaire tout l'historique, hein, mais du post-exotisme ont été jetées dans la décennie 70, même si vous l'avez expliqué réellement dans les années 90. Ces années-là, qui étaient les années où vous étiez de ceux qui voulaient, je vous cite, la destruction du monde capitaliste occidental. Est-ce que ça veut dire que la littérature, pour vous, a commencé finalement par un acte politique et pour vous, par un constat d'échec ?
La littérature post-exotique telle qu'elle existe aujourd'hui repose sur une fiction qui est que ces différentes voix qui finissent par donner des livres publiés viennent d'un quartier de haute sécurité où se trouvent prisonniers et prisonnières condamnés à la perpétuité qui, après avoir laissé leurs armes, en prison, échangent des textes, échangent des rêves, des récits de rêves et des fragments de poèmes, de récits qui deviennent peu à peu des romans qu'on peut lire ensuite s'ils sont publiés. Mais la base idéologique de cette communauté d'écrivains, c'était une base de violente opposition armée au système capitaliste Et bien entendu, s'il se trouve en prison pour échanger des récits de rêve, c'est parce que leur lutte a été marquée par l'échec et la défaite. Et ils ruminent en permanence sur leur propre défaite, sur la défaite aussi, bien entendu, des idéaux humanistes et révolutionnaires de tout le XXe siècle qui ont été salis et salopés par les génocides, les guerres et les trahisons de la Révolution.
Est-ce qu'il y a eu d'autres écrivains qui ont rejoint le post-exotisme, à part les écrivains dont vous avez porté la voix, Antoine Volodine ? Est-ce que vous avez été rejoint par d'autres écrivains ?
Alors, nous sommes une communauté bien constituée, en prison, et
personne ne peut y rentrer.
Voilà. Non, mais ça fait... en fait, il y a une liste dans un petit livre qui s'appelle « Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11 », une liste de centaines de titres, 343 titres, et de très nombreux auteurs post-exotiques. Certains peuvent encore apparaître dans le monde éditorial français, mais il faut dire que c'est difficile.
Est-ce qu'il y en a certains qui sont morts ?
Oui, Eli Kronauer est mort.
Manou, ne faites pas une tête d'enterrement. Dernière question, Manou Farine.
Oui, une œuvre répartie en plusieurs voix, hein, comme vous le faites, Antoine Volodine. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au fond, ce que vous construisez depuis une trentaine d'années, c'est un projet théâtral ?
Si vous le dites, j'en serais très heureux.
Pour Terminus Radio, vous parlez quand même de fin Beckettienne. Plus généralement, en quoi ce roman-là pourrait être expliqué, comme vous le suggérez, donc sous l'angle du théâtre ?
La fin est Beckettienne dans la mesure où se retrouve, après des siècles d'errance dans la taïga, dans une lumière qui n'a cessé de baisser, deux personnages épuisés que sont Kronauer, c'est pas l'auteur, c'est un personnage qui porte son nom, Kronauer, et Aldolai Schulhoff qui est également un barde, qui a été puni par Soloviev, qui a été maudit par le président du Kolkhoz, et magicien, et corbeau, et créateur et recréateur du monde entier, qui a été puni et qui a été condamné à une errance infinie dans la forêt. Et ces deux personnages sont assis côte à côte et au dernier degré de l'épuisement. C'est peut-être cela qui fait que c'est Beckettien. Je ne crois pas que j'ai eu l'audace de dire moi-même que c'était une inspiration beckettienne.
Claude Régis, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas ce que c'est qu'une inspiration beckettienne. Je sais quel auteur magistral et novateur est Beckett. Je ne pense pas qu'il faut... J'ai horreur de cet adjectif que les universitaires adorent, c'est-à-dire de fabriquer des adjectifs avec le nom des gens. Tout ce qui est beckettien me paraît très louche.
Tambours incessants, silence pendant le texte.
Les mots servent à libérer une matière silencieuse qui est bien plus vaste que les mots.
Et à la fin du livre, on a « Silence après le texte ».
Merci à nos invités. Claude Régis, intérieur de Maurice Maeterlinck jusqu'au 27 septembre. C'était la Maison de la Culture du Japon à Paris dans le cadre du Festival d'automne. Et Antoine Volodine, Terminus Radieux, apparu aux éditions du Seuil. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
En 1, Madame le Bleu, Monsieur Berry, éternellement.
Il est là-bas !
Attendez !
Voilà !
2. On les retrouve assassinés, découpés en morceaux. 3. Dans des vaches.
Deux vaches folles.
Ouais, mais bon.
Parlez-vous.
Demain, série télé et cinéma avec les cinéastes Bruno Dumont et Jean-Charles Hu. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture, Zoé Sfez, à la technique Clément Daté, Vincent René, à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter cette émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Claude Régis, je pense que l'addiction est à refaire, vous ne pensez pas ? Pour Hippolyte.
Je pense que ces jeunes gens parlent trop vite et qu'ils n'articulent pas.
En plus, parlent trop vite et n'articulent pas. C'est mais parfait.
Oui, ce qui fait
qu'on ne comprend rien.
Non, c'est pas qu'on comprend très bien, mais c'est la langue qui est fusillée.
Alors je crois qu'il est vraiment temps de nous quitter. Vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.